On plonge aujourd'hui au cœur du Maroc,
Oh.
avec tout un tas d'articles et d'analyses qui nous donnent une image assez saisissante du pays. On va parler des défis sociaux, des changements politiques, des perspectives économiques et même un peu d'intrigues internationales.
Exactement.
Préparez-vous, ça va être fascinant.
Ce qui est frappant, c'est que toutes ces sources convergent vers certains thèmes clés. Prenez par exemple l'histoire de ces plus de 3 000 adolescents
Oui.
qui ont pris d'assaut la clôture frontalière de Ceuta en septembre 2024.
Ah oui.
C'est un événement marquant
Oui.
qui révèle des tensions profondes au sein de la société marocaine.
Oui, c'est un signal d'alarme assez troublant.
Tout à fait.
Qu'est-ce qui pousse ces jeunes à risquer leur vie de cette manière?
Les sources pointent du doigt un faisceau de facteurs. Un système éducatif qui ne répond pas aux besoins du marché du travail.
Oui.
Un chômage des jeunes qui atteint des niveaux records
D'accord.
et un sentiment de manque d'opportunités. L'incident de Funidec n'est pas un cas isolé.
Non.
Il met en lumière une frustration grandissante,
Oui.
particulièrement chez les jeunes, face à un avenir incertain.
Et cette frustration, on la retrouve dans d'autres aspects de la société marocaine,
Absolument.
n'est-ce pas?
Oui.
Les sources évoquent des disparités sociales et économiques de plus en plus marquées.
Tout à fait. Les articles décrivent des quartiers défavorisés aux prises avec la pauvreté, le manque d'accès aux services de base, oui, la drogue. On parle aussi d'une classe dirigeante qui semble déconnectée des réalités du terrain. Et puis, il y a ce chiffre alarmant, 25,2% des jeunes Marocains sont des nets.
Ah oui.
C'est-à-dire qu'ils ne sont ni en éducation, ni en emploi, ni en formation.
Oui.
C'est un indicateur préoccupant pour l'avenir du pays.
Net, c'est
Hein?
un terme qu'on ne connaît pas forcément.
Oui.
Pouvez-vous nous en dire plus?
Bien sûr, le terme net, ni en éducation, ni en emploi, ni en formation, désigne une catégorie de jeunes qui se retrouvent exclus du système, souvent sans perspective d'avenir. Ce phénomène est un véritable défi pour le Maroc, car il représente un gâchis de potentiel humain
Exactement.
et une source potentielle d'instabilité sociale.
D'autant plus que si j'ai bien compris, il n'y a pas un profil type de net.
Vous avez tout à fait raison, les sources mettent en évidence une diversité de profils,
Oui.
des diplômés chômeurs, des jeunes qui ont décroché du système scolaire,
D'accord.
des jeunes femmes qui doivent s'occuper de leur famille. La complexité du phénomène net exige des solutions multiformes, allant de la réforme de l'éducation à la création de programmes de formation professionnelle adaptés.
On comprend mieux l'ampleur du défi.
Oui!
Mais au-delà des problèmes internes, le Maroc doit aussi naviguer dans un contexte international de plus en plus complexe.
Effectivement, et la chute du régime de Bachar al-Assad en Syrie
Ah oui?
a des implications directes pour le Maroc.
C'est intéressant, on pourrait penser que ce qui se passe en Syrie n'a pas de lien direct avec le Maroc.
Oui.
Mais les sources montrent que ce n'est pas le cas.
Exactement, la Syrie est un allié de longue date de l'Algérie,
Oui.
le voisin et rival du Maroc. La chute d'Assad bouleverse l'équilibre géopolitique de la région
D'accord.
et le Maroc doit s'adapter à cette nouvelle donne.
Et comment le Maroc réagit-il à cette situation?
Les sources mettent en avant une approche diplomatique prudente, axée sur la préservation de la souveraineté syrienne et la non-ingérence.
D'accord.
Le Maroc privilégie le dialogue et la recherche d'une solution politique négociée. C'est une position qui s'inscrit dans la continuité de la politique étrangère marocaine,
Oui.
notamment sur des dossiers comme la Libye ou le Yémen.
C'est une position qui contraste avec celle de l'Algérie,
Oui.
qui était un ferme soutien d'Assad.
Tout à fait. L'Algérie a toujours été un allié indéfectible de la Syrie, partageant une vision similaire du monde arabe
Oui.
et une méfiance à l'égard des mouvements islamistes. La chute d'Assad est un revers majeur pour l'Algérie,
Oui.
qui se retrouve isolée sur la scène internationale.
Donc la chute d'Assad a des répercussions directes sur l'équilibre des pouvoirs au Maghreb.
Absolument, l'Algérie se retrouve affaiblie,
Oui.
tandis que le Maroc, qui a adopté une position plus pragmatique, pourrait en profiter pour renforcer son influence.
C'est un jeu géopolitique fascinant qui se joue sous nos yeux.
Oui.
Mais avant de plonger plus en profondeur dans les implications internationales, revenons aux enjeux internes du Maroc,
Oui.
notamment le débat autour de la Moudawana, le code de la famille.
Ah oui, la Moudawana, un sujet sensible qui divise la société marocaine.
Exactement, de quoi s'agit-il
Oui.
précisément? Et pourquoi est-ce si important?
La Moudawana, c'est le code de la famille marocaine
D'accord.
qui régit des questions comme le mariage, le divorce,
Oui.
la garde des enfants, l'héritage.
Oui.
C'est un sujet crucial.
Ouais.
car il touche au cœur de l'organisation de la société marocaine.
Et le débat actuel, il porte sur quoi?
Depuis plusieurs années, il y a un mouvement pour réformer la Moudawana,
Oui.
Notamment pour améliorer les droits des femmes.
D'accord.
Le roi Mohamed VII a lui-même pris position en faveur d'une modernisation du code de la famille.
Et quelles sont les propositions concrètes?
Il y a plusieurs propositions sur la table, comme la suppression de la polygamie,
Oui.
l'égalité entre hommes et femmes en matière d'héritage,
D'accord.
ou encore le renforcement des droits des femmes en cas de divorce.
C'est un chantier ambitieux qui ne fait pas l'unanimité, j'imagine.
Effectivement, les sources mettent en évidence les tensions entre ceux qui veulent une réforme en profondeur et ceux qui défendent les traditions.
D'accord.
Le débat est vif et il est difficile de savoir quel sera l'aboutissement de ce processus.
C'est un sujet passionnant qu'on va certainement creuser davantage dans la suite de notre exploration.
Mais avant de passer à la deuxième partie, on va s'arrêter quelques instants.
D'accord. On reprend notre plongée au cœur du Maroc et je dois dire que l'essai de Nizar Baraka, hommage aux 25 ans de règne de Sa Majesté le roi Mohamed XI, m'a vraiment interpellée. Il offre une perspective fascinante sur la vision du roi en matière de souveraineté.
Ah oui, cet essai, j'avoue qu'il m'a aussi marqué. On sent une volonté d'affirmer l'indépendance du Maroc, pas seulement sur le plan diplomatique, mais aussi en matière de résilience économique et d'identité culturelle. Baraka parle d'un nouveau modèle marocain. C'est assez intriguant.
Tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment cette vision se traduit concrètement. Prenez par exemple le domaine des énergies renouvelables. Le Maroc a fait des progrès spectaculaires ces dernières années, avec l'objectif d'atteindre 80% d'énergie renouvelable d'ici 2050.
C'était un objectif ambitieux et ça s'inscrit parfaitement dans cette idée de souveraineté de ne plus dépendre des importations d'énergie. On peut imaginer l'impact positif que cela aurait sur l'économie et l'environnement.
Absolument. Et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Le Maroc investit massivement dans les infrastructures, notamment avec le port de Dakhla Atlantique. Ce projet vise à dynamiser le développement de toute la façade atlantique et à renforcer le rôle du Maroc comme hub économique régional.
On perçoit vraiment une stratégie à long terme pour positionner le Maroc comme un acteur incontournable aussi bien en Afrique qu'à l'échelle internationale.
Précisément. Et cette ambition se reflète aussi dans la candidature du Maroc conjointement avec l'Espagne et le Portugal pour organiser la Coupe du monde de football 2030. Imaginez l'impact que cela aurait sur l'image du pays et sur son économie.
Effectivement, c'est un signal fort. Uh-huh. Cela montre que le Maroc veut jouer dans la cour des grands et qu'il a les moyens de ses ambitions.
Oui, et en même temps, il y a cette tension permanente entre l'ouverture sur le monde et la nécessité de préserver l'identité nationale. On le voit bien dans le débat sur la Moudawana, comment moderniser le code de la famille tout en respectant les traditions et les valeurs religieuses.
C'est un exercice d'équilibriste, j'imagine, comment concilier les aspirations de modernité d'une partie de la société avec les traditions profondément ancrées dans la culture marocaine.
Exactement. Et le fait que le roi ait personnellement présidé la réunion sur la Moudawana en décembre 2024 montre bien l'importance qu'il accorde à cette question. Il s'agit de trouver un chemin qui permette au Maroc d'avancer sans se renier.
Les sources évoquent des avancées significatives en matière de droits des femmes, notamment concernant le mariage, la garde des enfants et la gestion des biens du couple.
Oui, mais en même temps, certaines propositions comme la suppression de la polygamie ou l'égalité totale en matière d'héritage ont rencontré des résistances. C'est un débat complexe qui touche à des valeurs profondes.
On sent que c'est un sujet sensible qui ne peut pas être traité à la légère.
Tout à fait. Et c'est là qu'on voit l'habileté politique du roi Mohamed Zantaz, qui sait naviguer entre les différents courants de la société marocaine.
C'est un peu comme un funambule. Il doit trouver le point d'équilibre pour faire avancer le pays sans provoquer de rupture.
Exactement, mais revenons à la question de la souveraineté. Il y a un aspect qu'on n'a pas encore abordé, la relation avec l'Algérie.
Ah oui, l'Algérie, difficile de parler du Maroc sans évoquer son voisin et rival de toujours.
Et la chute d'Assad en Syrie a mis en lumière les divergences profondes entre les deux pays.
On a parlé de la position prudente du Maroc, qui appelle à une solution politique négociée. Mais l'Algérie, elle a toujours été un allié indéfectible d'Assad. Comment expliquer cette différence de positionnement?
C'est une question complexe qui s'enracine dans l'histoire et l'idéologie. L'Algérie et la Syrie ont en commun un modèle autoritaire, un héritage socialiste et une méfiance vis-à-vis de l'islam politique. Le Maroc, en revanche, s'est engagé dans une voie plus libérale et démocratique, avec un système politique qui, même s'il est encore dominé par la monarchie, offre plus d'espace à la société civile.
On comprend mieux pourquoi la chute d'Assad a provoqué un tel choc à Alger. C'est une perte stratégique majeure pour l'Algérie qui se retrouve isolée sur la scène internationale.
Exactement, et cette situation pourrait avoir des conséquences importantes pour le Maghreb. Imaginez un scénario où l'Algérie fragilisée se replierait sur elle-même, tandis que le Maroc, fort de ses alliances et de sa nouvelle stature, affirmerait son leadership régional.
C'est un scénario qui pourrait rebattre les cartes de la géopolitique au Maghreb, mais est-ce un scénario réaliste? Est-ce qu'on se dirige vraiment vers une confrontation ouverte entre le Maroc et l'Algérie?
C'est difficile à dire. Ce qui est certain, c'est que les enjeux sont énormes et que les deux pays ont beaucoup à perdre dans un conflit ouvert.
On sent que la tension est palpable et que la moindre étincelle pourrait embraser la région.
Oui, et la question du Sahara occidental reste un point de friction majeur. L'Algérie soutient le mouvement séparatiste du Polisario, qui revendique l'indépendance du Sahara occidental, tandis que le Maroc considère ce territoire comme une partie intégrante de son territoire national.
C'est un conflit qui dure depuis des décennies et qui empoisonne les relations entre les deux pays.
Absolument. Et la chute d'Assad pourrait raviver les tensions, car l'Algérie affaiblie pourrait être tentée de jouer la carte du Sahara occidental pour déstabiliser le Maroc.
C'est une situation explosive qui mérite qu'on s'y attarde davantage. On va analyser en détail les enjeux géopolitiques liés au Sahara occidental dans la troisième partie de notre exploration. Restez avec nous. On arrive à la dernière partie de notre exploration du Maroc et on a déjà couvert pas mal de terrains, les défis sociaux, les réformes économiques, la question de la souveraineté et puis cette tension palpable entre le Maroc et l'Algérie exacerbée par la chute d'Assad en Syrie.
Ouais, c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes parce que la disparition d'Assad a non seulement affaibli l'Algérie sur le plan géopolitique, mais a aussi créé un vide que d'autres acteurs cherchent à combler.
On assiste à une véritable recomposition du jeu d'influence dans la région.
C'est un peu comme une partie d'échecs où chaque pièce déplacée modifie l'équilibre des forces. Et le Maroc, quelle est sa stratégie dans ce contexte?
Le Maroc joue ses cartes avec habileté. On observe un renforcement de son influence régionale, notamment en Afrique subsaharienne. Le pays multiplie des initiatives diplomatiques, investit dans des projets d'infrastructures et signe des accords de coopération économique. Il se positionne comme un partenaire incontournable pour les pays africains.
C'est une stratégie intelligente qui permet au Maroc de diversifier ses alliances et de s'affirmer comme un leader sur le continent.
Exactement. Et en parallèle, le Maroc consolide ses liens avec les pays du Golfe, qui eux aussi cherchent à redéfinir leur rôle dans la région. On assiste à un rapprochement stratégique entre ces deux pôles qui partagent des intérêts communs face aux bouleversements géopolitiques.
C'est un jeu diplomatique subtil qui se joue sous nos yeux. D'un côté, le Maroc tisse des liens solides avec ses partenaires africains et du Golfe. Et de l'autre côté, l'Algérie semble de plus en plus isolée.
Absolument. L'Algérie a perdu un allié clé en Syrie et son soutien au mouvement séparatiste du Sahara occidental l'isole davantage sur la scène internationale. Le Maroc lui a réussi à rallier de nombreux pays à sa cause en défendant l'intégrité territoriale et en proposant un plan d'autonomie pour la région.
On comprend mieux pourquoi le Maroc met autant l'accent sur la nécessité de préserver sa souveraineté et de lutter contre toute ingérence extérieure. Le pays veut être maître de son destin et ne tolérera aucune tentative de déstabilisation.
Tout à fait. Le Maroc a tiré les leçons du passé et il s'est doté d'une diplomatie proactive pour défendre ses intérêts. Il est conscient des enjeux géopolitiques et il ne laissera personne dicter sa conduite.
Mais est-ce que cette situation nous mène vers une confrontation ouverte entre le Maroc et l'Algérie? Est-ce que le risque d'un conflit armé est réel?
Difficile de répondre avec certitude. Ce qui est sûr, c'est que les deux pays ont beaucoup à perdre dans une guerre ouverte. Les conséquences économiques et humaines seraient désastreuses pour toute la région.
Alors quel est le scénario le plus probable?
Le plus probable, c'est que la tension persiste avec des pics de crise et des périodes d'accalmie. L'Algérie continuera probablement à soutenir le Polisario, mais sans aller jusqu'à une intervention militaire directe. Le Maroc, de son côté, maintiendra sa position ferme sur le Sahara occidental, tout en renforçant ses alliances et son influence régionale.
Donc un statu quo tendu avec un risque permanent d'embrasement.
Oui, c'est le scénario le plus probable. Mais il ne faut pas exclure la possibilité d'une évolution positive. Si les deux pays parviennent à dialoguer et à trouver un terrain d'entente, on pourrait assister à une détente des relations et à une coopération accrue dans des domaines d'intérêt commun.
Ce serait un développement positif pour toute la région. Le Maghreb a un potentiel énorme, mais il est freiné par les tensions et les rivalités.
Absolument. Une coopération accrue entre le Maroc et l'Algérie permettrait de libérer ce potentiel et de créer un espace de prospérité et de stabilité pour tous les peuples de la région.
C'est un message d'espoir sur lequel on peut conclure notre exploration. On a vu que le Maroc est un pays complexe, en pleine mutation, confronté à des défis importants, mais aussi porteur d'un potentiel immense. Il est à la croisée des chemins et ses choix auront un impact majeur sur l'avenir du Maghreb et de toute la région. Merci de m'avoir invité à partager mon analyse. J'espère que notre discussion aura permis de mieux comprendre les enjeux et les dynamiques qui façonnent le Maroc d'aujourd'hui.
Merci à vous pour votre expertise.
Et merci à vous, chers auditeurs. de nous avoir suivis dans cette plongée au cœur du Maroc. On vous encourage à poursuivre l'exploration de ce pays fascinant qui ne cesse de nous surprendre.